Louer et remercier soit le Seigneur. Nous ressentons que Dieu est proche de nous et qu'il parle avec nous et que nos cœurs réagissent. Il y en a dont le cœur n'a pas la réponse à la parole de Dieu, n'a pas de réaction à la parole de Dieu, mais n'a pas de réponse à la parole de Dieu. Mais heureux ceux qui ressentent et qui suivent de tout leur cœur quand Dieu parle. Et il est écrit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Quelle grâce et quel privilège c'est que Dieu parle encore avec nous. Nous tous, la patience nous aurait quittés depuis longtemps. De nous tous, mais Dieu est miséricorde et patient et grand et il a une grande bonté et il ne veut que personne, il ne veut pas que quelqu'un se perde, mais que tous viennent à la connaissance de la vérité, soient préparés et voient sa gloire. La responsabilité d'avoir écouté la parole de Dieu est très grande. Très grande. Des hommes qui n'ont jamais écouté la parole de Dieu, s'ils n'avaient pas atteint le but, ils ne ressentiront pas la douleur de ceux qui souvent ont écouté la parole de Dieu et n'atteindront pas le but. Je dois souvent penser comment est que tout s'est refroidi, est devenu tiède et paresseux. Peut-être que c'est seulement moi qui ressens ça comme ça, peut-être aussi que d'autres le ressentent comme ça. Je peux me rappeler à des temps où, quand on a chanté, bientôt, bientôt, comme ce sera merveilleux, nous entrerons là-bas dans la gloire avec cris de joie. Les larmes coulaient. On était saisis. Avec les paroles, ça ne suffisait pas. Le cœur réagissait. Ce n'était pas une idée de foi, mais c'était une expérience de la foi, une expérience personnelle qui nous a liés avec Dieu. Mais bien aimé, dans cette liaison avec Dieu, nous devons revenir dans ce contact intime. L'amour de Dieu doit, de la même manière, à la fin, être manifesté comme au commencement, dans toute sa mesure telle qu'il fut manifesté au commencement. Et notre Seigneur disait, c'est en cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Une deuxième pensée qui est dans ce contexte et qui m'est venue, c'est la suivante. Si de tout notre cœur, nous pouvions aimer comme certains peuvent haïr de tout leur cœur, alors nous aurions déjà aidé. On ressent parfois une haine directe qui se monte infiniment, ça se ressent. Est-ce que ça ne devrait pas être ainsi? Que l'amour de Dieu en nous se fasse ressentir, est ressenti par les autres et soit plus fort que tout le reste, l'amour de Dieu dans ton cœur et dans mon cœur. Et comme souvent nous avons eu à le dire, tout une fois aura cessé. Tous les dons, tous les ministères, tout aura accompli son objectif. Mais après tout cela, même après la fin, il y a une chose qui ira de l'autre côté, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, par la rédemption et par le pardon et par la grâce, a été manifesté. Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné son Fils, son Fils seul engendré de lui, pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. L'amour de Dieu n'est pas avec des arguments, n'est pas avec de la philosophie ou bien de la théologie. L'amour de Dieu est personnellement, en personne en Jésus-Christ, a été manifesté personnellement, en personne en Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'amour du Sauveur dans les sauvés doit être manifesté. Nous sommes ceux qui ont été saisis par cet amour. Nous sommes ceux qui ont été appelés à sortir par amour. Et tout cela, nous ne devons pas seulement de manière théorique, dans la théorie, le savoir. Il faut qu'elle devienne une partie ferme de notre vie spirituelle. Nous ne venons pas ici nous rassembler, nous réunir pour, de manière ordinaire, d'habitude, avoir une réunion. Nous venons ici pour avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Nous voulons qu'il puisse parler avec nous et que nous aussi nous voulons entrer dans un entretien avec lui, personnel. J'ai entendu dans la parole d'introduction, où serait un Dieu comme toi? Dieu est saint. Dieu est saint. Sa parole est sainte. Ses voix sont saintes. Tout ce qui est en relation avec Dieu et tout ce qui vient de lui ne peut que être saint. Et si nous voulons subsister devant lui, nous devons nous aussi être sanctifiés dans la vérité. Pas d'après ta manière et d'après ma manière, pas à ta manière et à ma manière, mais tel que Dieu l'a planifié et l'a voulu. Tout ce que nous pouvons faire de nous-mêmes ne subsistera pas devant Dieu. Il faut que cela soit venu de lui. C'est alors que ça pourra et que ça va subsister devant lui. Toute notre propre justice que nous lui apportons, toute notre justice que nous lui énumérons et que nous puissions lui montrer est devant lui comme un vêtement souillé. C'est ainsi que c'est écrit dans la parole de Dieu. Nous venons au Seigneur tel que nous sommes, mais nous ne repartons pas tel que nous sommes venus. Après la rencontre avec le Seigneur, nous allons devoir devenir de nouveaux hommes, de nouveaux hommes. Et nous l'avons observé une fois, cette parole avec Jacob. Il a combattu avec le Seigneur et il est devenu un Israël. Il n'a pas seulement porté le nom, il l'a combattu. Il l'avait pénétré, il l'avait percé. La victoire lui a été accordée par Dieu, par Dieu. Mais bien aimé, il a reçu la victoire de Dieu. Nous devons combattre, persévérer jusqu'à pénétrer dans la certitude de la foi, à l'expérience personnelle directe avec Dieu. Pas seulement en parler, seulement d'avoir une apparence pieuse ou bien un visage pieux ne sauvera personne. Nous avons besoin de la grâce de Dieu et elle est là pour nous tous, aujourd'hui. Aujourd'hui, pour toi et pour moi. Dieu fait des miracles en haut, au ciel et en bas sur la terre. Et ses chemins, ses voies, avec son peuple, ses voies sont les voies saintes. Nous l'avons reconnu, ses décisions, ses instructions, ses ordres, ses instructions, ses paroles, tout est saint. Et Dieu veut que nous puissions, dans la bonne disposition et la crainte, et recevoir cela comme saint. Et venir dans sa présence telle que nous avons reconnu ces choses, dans la proportion avec laquelle nous avons reconnu ces choses. Si aujourd'hui nous venons devant la face de Dieu, telle que les gens venaient dans sa présence autrefois et demandaient quelque chose à Dieu, alors il doit aujourd'hui en nous faire la même chose qu'il a fait dans les croyants dans le passé, en ceux qui venaient à lui. Parce que devant Dieu, il n'y a pas d'exception de personne. Il ne change pas, il n'est pas soumis aux circonstances du temps. Il est d'éternité en éternité, loué et élevé au-dessus de tout. Mais malgré tout, il est descendu ici jusqu'à dans la poussière d'où tu as été tiré. Et il a fait de nous quelque chose pour célébrer sa gloire. Pour la gloire, pour célébrer sa gloire. Célébrer la gloire de sa grâce. Parfois, nous pourrions nous abandonner nous-mêmes et dire nous ne réussirons jamais. Mais Dieu peut pas nous abandonner. Il l'a déjà accompli pour nous. C'est accompli. Il a déjà réussi pour nous. C'est déjà accompli. Il est écrit dans le psaume 2:2. Psaume 2, verset 8, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. C'est une demande que Dieu a faite. Alors que Jésus-Christ sur la croix du calvaire mourut, tous ceux qui dans la foi recevraient, accepteraient le salut, la délivrance, la rédemption, pour eux, ils ont été sortis par Dieu du domaine de Satan et de la mort. Selon les Écritures, nous étions aux yeux de Dieu déjà en Christ. Nous avons souffert avec lui. Nous sommes morts avec lui. Nous avons été crucifiés avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Et nous sommes avec lui dans les lieux célestes. Assis, ravi. Si cela pouvait nous réussir, avec l'aide de Dieu, d'accepter ces vérités de la foi comme une réalité divine, pour qu'elles puissent produire leur effet dans notre vie de croyant. Je dois encore penser à hier soir, mais ici, j'ai quelques mots de notre bien-aimé Frère Winkler. Il les a donnés à notre bien-aimé sœur. Et ici, il est dit, « Bien-aimé frère, s'il te plaît, prie aussi pour moi que je puisse appartenir à l'épouse de Christ et que je sois aussi rempli de Saint-Esprit. Merci pour cela. Est-ce que cela n'est pas notre prière à tous, notre souhait à tous, à appartenir à l'épouse? Pas seulement d'avoir écouté la parole de Dieu ici sur cette terre, mais d'appartenir à l'Église des premiers-nés qui sont écrits aux cieux, des fils et des filles de Dieu qui ont été déterminés à cela, à voir la gloire de Dieu. Et nous croyons qu'il nous aidera à atteindre ce but glorieux. Comment est-ce qu'il ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec son Fils, qui n'a pas épargné, lui qui a commencé son œuvre, comment est-ce qu'il ne l'achèverait pas non plus? Il fera toutes choses par sa grâce. Alors que le frère Pézal parlait de la grandeur de Dieu et de la puissance de Dieu, lisait concernant ces choses et de sa majesté et montrait que nous n'avons pas besoin de prouver la puissance de Dieu, car Dieu l'a. Le Dieu vivant. Le Dieu a déjà apporté la preuve vivante de sa puissance et de sa grandeur. Et il déclare tous insensés, tous ceux qui veulent prouver la puissance de Dieu. Parce que dans la théorie, parce que la théorie n'est pas comparable à la réalité. Ici, par exemple, dans Romains, le premier chapitre, à partir du verset 18, il est écrit, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captif. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, est connu d'eux en allemand. Dieu les leur ayant fait connaître. Donc, Dieu, oui. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Déjà, avec les yeux terrestres, avec l'œil nu, on peut voir que tout ce que Dieu a appelé à l'existence, c'est devenu tout cela sont devenus une réalité. Il a dit que la lumière soit la lumière fut. Il a dit et ça existait. Il a ordonné et ça a apparu. Le ciel et dans le ciel et sur la terre et dans la mer, sur la terre et dans la mer, tout a eu lieu tel que Dieu l'a dit. A existé comme Dieu l'a ordonné. Il a dit que là, que le grand luminaire apparaisse et il a été appelé soleil. Et ce fut ainsi et c'est encore ainsi jusqu'à aujourd'hui. Il a dit que qui est de grand luminaire, le plus grand luminaire pour précéder au jour et le plus petit luminaire pour précéder la nuit. Il fut ainsi. Il faut aussi les étoiles. Et tout a été comme il a dit. Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent et en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et appela la main des eaux mer. Il a ordonné et cela a eu lieu. Et il a dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence et cela fut ainsi. Et jusqu'aujourd'hui encore, cela est ainsi. La terre produit même parmi ceux qui renient l'existence de Dieu, qui ne veulent pas admettre cela, reconnaître cela, aussi cette pensée était si précieuse, qui déjà pendant la première introduction a été exprimée. Dieu n'est pas une chose qu'on fait, qu'on porte. Dieu est celui qui nous a créés et qui nous porte. Tout le reste, ce sont des choses, des idoles faites d'hommes, de bois, de pierre et de propres imaginations. Comme nous pouvons être merveilleux et reconnaissants de ce que Dieu, dans sa grâce, vraiment nous s'est révélé à nous. Mais bien aimé, Dieu veut que ces choses qui dans le deuxième domaine, dans le domaine de l'esprit que nous avons reçu, puisse pénétrer jusqu'à dans notre cœur, dans notre âme, dans le troisième cercle. Que c'est pas seulement que nous puissions savoir ces choses parce que nous les avons écoutées, mais qu'elles deviennent une partie de notre nature, C'est seulement comme ça que nous pourrons être transformés à la nature et à l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est seulement comme ça que nous pourrons nous laisser insérer dans le corps du Seigneur pour qu'il puisse être fonctionnel, il puisse fonctionner. Vous savez, Dieu a une bouche, Dieu vit, Dieu peut parler, Dieu peut écrire. Dieu est, n'est-ce pas, le Dieu Tout-Puissant qui, depuis le commencement, s'est révélé. Mais quand il parle sur terre, et quand il veut parler sur terre, réagir sur terre, il a besoin d'un corps. Il a besoin de quelque chose de vivant. Et cela peut, ne peut être que l'Église du Seigneur. Et ici, frère Branham dit, Dieu a déversé toute sa plénitude, a révélé toute sa plénitude en Christ. Et Christ a révélé toute sa plénitude dans et par l'Église. Ou bien alors, fait connaître, et fait connaître sa plénitude. Et cela est en accord avec ce que nous lisons dans Colossiens. Je veux dire, c'est dans le Colossiens, l'Épître. Je veux dire que c'est écrit dans Colossiens que nous avons en lui possessons en lui toute cette plénitude qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens chapitre 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous possédez toute cette plénitude en lui. Verset 10. Car en lui habite toute la plénitude de la divinité et vous possédez toute cette plénitude en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Pas seulement que toute la plénitude de Dieu corporellement, ici sur terre, a été fait connaître, a été manifesté, a habité. Ça, c'était la première chose. Comme deuxième chose, il faut que cette plénitude de Dieu, dans l'Église, qui a été rachetée par Christ et qui est joint ensemble pour former son corps, que cette même plénitude soit manifestée dans l'Église, qui est son corps. Et c'est écrit ici de manière si merveilleuse. Vous avez toute plénitude. Toute cette plénitude en lui. En allemand, vous possédez toute cette plénitude en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Le frère Gajic, hier soir, nous a encore lu, et particulièrement nos bien-aimés frères et sœurs qui se sont mariés, concernant le combat d'Éphésiens chapitre 6. Et par cette parole, nous voulons prendre connaissance de cette réalité divine. Chaque domination et chaque pouvoir, chaque puissance qui existe quelque part, existerait quelque part dans les airs, est déjà soumis à Christ. Je mettrai tous tes ennemis sous ton marchepied. Le psaume 110. Déjà, en tant qu'une prophétie de l'Ancien Testament, car si nous, nous sommes le corps du Seigneur et que, en tant que son corps, nous recevons cette pensée dans notre cœur, notre Seigneur, notre chef, notre tête, Jésus-Christ, est déjà tout. Tout lui a déjà été soumis et nous aussi, nous sommes soumis à notre chef, la tête. Alors, il faut que toute puissance, toute domination qui a été vaincue par Dieu soit aussi considérée de nous comme vaincue. Le combat que nous avons à mener doit être un combat de la foi, mais la foi ne doit pas se tenir avant le combat. La foi doit avoir la vue d'ensemble et savoir que sur la croix à Golgotha, il n'a pas seulement combattu, mais il a vaincu. Et que notre Seigneur n'est pas seulement mort, mais qu'il est allé dans les endroits inférieurs de la terre. Et qu'il a vaincu la mort, l'enfer et le diable. Il a tout vaincu et surmonté. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il a triomphé. Ça, c'est très important. Si nous nous voyons devant un grand combat qui doit être encore remporté. Mais où irons-nous? Non. Tel que autrefois, avec David, c'était alors que les Philistins avec leur Goliath, n'est-ce pas, se tenait, avait apparu en face du peuple d'Israël. Là, il est dit qu'un seul sorte contre moi et la décision devait être prise. Et c'était la crainte et le tremblement parmi tous les Israélites. Et subitement, vint David, le fils de la tribu de Isaïe. Ça n'a pas d'importance selon les traductions qu'on a. Et il a écouté tous ces blasphèmes, tous ces défis. Et il voyait comment est-ce que tous tremblaient de leurs genoux. Ils ne pouvaient pas supporter cela. L'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu vint sur lui. Et il a dit dans son cœur, cet incirconcis philistin n'a pas le droit de blasphémer le peuple de Dieu et par cela aussi insulter Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas permis. Il a seulement été envoyé pour prendre des nouvelles de ses frères. Je connais celui duquel il est écrit, je ferai connaître ton nom à mes frères. Le premier-né parmi plusieurs frères, ou bien entre plusieurs frères, vint à nous. Nous étions sans pouvoir, sans force, devant l'armée de l'ennemi. Et son défi nous a effrayés. Mais il y en a un qui est venu, le fils de David, notre Seigneur et roi, notre Sauveur. Et il savait que ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que son compte soit réglé. Ici, on doit combattre. Ici, tous. Nous sommes perdants. Nous n'avons aucune chance. Mais lui, il pouvait pas perdre. Il était vainqueur. Il mourut selon le corps, mais il était vivant selon l'esprit. Et il nous a accordé à tous la victoire, le triomphe. C'est nécessaire que nous puissions, dans l'ordre divin, voir ces choses et aussi dans cet ordre dans lequel ces choses nous ont été léguées, transmises. Sinon, nous ne comprenons pas ce qui est écrit dans 1 Jean 5, au verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Ça, c'est l'une des paroles les plus puissantes. Mais il faut qu'elle soit comprise telle que Dieu voit la chose pour qu'elle puisse devenir une réalité divine à nous. 1 Jean 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais notre foi n'est pas séparée de Dieu, ou bien de la rédemption, ou bien de ce qui s'est passé pour nous, ce qui a été accompli. Notre foi est liée à Dieu, à la parole de Dieu, à l'œuvre accomplie de la rédemption. Et c'est peut-être raison que notre foi, qui, n'est-ce pas, est une foi biblique, elle est en même temps le triomphe par lequel nous avons déjà vaincu du monde. Est déjà la victoire par laquelle nous avons triomphé du monde. Est déjà la victoire. Pas que nous triompherons, mais qui a déjà triomphé du monde. Quand est-ce que cela s'est passé? Ça s'est passé à Golgotha déjà. Mais quand est-ce que cela va se passer dans ta vie? Si par la révélation divine, sous le coup de la parole, du message divin, tu peux accepter cette victoire, que cela s'est passé pour moi. Là, à Golgotha, le Seigneur a pris ma place et il a réglé le compte de Satan et de toutes les dominations des ténèbres de l'enfer. Et il a triomphé. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, qui a triomphé du monde, et la victoire qui a triomphé du monde, en allemand, qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Alors, comment est notre foi? Elle est fondée sur quoi? Notre foi est fondée sur la parole de Dieu. C'est accompli. C'est ainsi que notre Seigneur sur la croix du calvaire à Golgotha a s'est écrié. Et si nous croyons que cela est vraiment accompli, alors nous ne pouvons rien faire d'autre que revendiquer ce triomphe de Dieu qui sur la croix à Golgotha et par la résurrection a été manifesté, pour que cela aussi puisse être manifesté dans notre vie. Ça, c'est la relation avec cette parole ici de Colossiens 1, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous possédez toute la plénitude en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Si nous prenons cette parole au sérieux, et ça nous devons le faire, et ça nous devons le prendre au sérieux, alors nous serons secourus et aidés. Nous pouvons encore ensemble lire à partir du verset 13. Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, en nous pardonnant toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, qui formait un obstacle pour notre salut, en allemand. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Après avoir dépouillé les dominations et les autorités et les avoir livrées publiquement en spectacle, il triompha d'eux par la foi. Triompha d'eux par la croix. C'était pas un triomphe à la légère. C'était un triomphe entier, un triomphe total, un triomphe de Dieu. Une victoire. Il y a une grande victoire. Il n'y en a qu'un seul qui est tout puissant. Il n'y en a qu'un seul qui dit le dernier mot, qui a le dernier mot. Il n'y en a qu'un seul à qui tout pouvoir sur la terre et sur la terre comme au ciel ont été donnés. Et ça, c'est notre Seigneur que nous voulons voir glorifié dans l'Église. Et nous voulons avoir à lui et à sa parole la bonne disposition du cœur et savoir pour quelle raison, pourquoi est-ce que Dieu nous a déterminés. Et je vous dis, si nous recevions la parole de Dieu telle que ça se passerait, telle que nous recevions, l'écouterions, si le Seigneur se tiendrait là devant nous, dans la chair, comment est-ce que nous réagirions? Si nous pouvons maintenant recevoir sa parole avec le même respect, la même crainte que nous aurions si nous étions personnellement devant lui et qu'il nous parlerait audiblement, quel effet ces paroles auraient dans notre cœur? Qu'est-ce qui se passerait en toi et en moi si le Seigneur se tiendrait ici à ma place maintenant? Je pouvais se tenir là maintenant devant la chair à ma place et parler à nous visiblement. Représentez-vous cela une fois. Et je dois vous dire que rien n'a changé à sa parole et rien ne peut changer à ses paroles. Qu'il les prononce par la bouche des prophètes ou bien par la bouche des apôtres, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, que cela fut écrit, l'Esprit de Dieu a été envoyé pour aussi certains qu'elle ait prêché, la vivifier de la même manière qu'elle fut vivifiée autrefois, alors qu'elle sortait de la bouche de Dieu. Alors elle a le même effet. Le même effet. Elle produit la même chose. Elle a la même puissance. Et alors, nous pouvons expérimenter le Dieu Tout-Puissant se manifester parmi nous. Paul encore dans 2 Corinthiens a dit une chose semblable, que Il n'est pas venu avec des paroles de sagesse humaine, mais avec la preuve de la présence de l'Esprit de Dieu. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, ici, cela est montré ici encore une fois. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par nous dans son ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Pendant que la parole a été lue ici, écrite sur papier, et apportée au peuple, et prêchée au peuple, l'Esprit de Dieu a écrit. Et dans le cœur des hommes qui croyaient la parole, il a écrit ces choses. C'était dans leur cœur. Et ça ne peut plus être ôté. Écrit par l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu. Cette parole écrite était la parole parlée, la parole vivante. Et au moment où, par la prédication, elle est annoncée, elle est apportée, alors tout de nouveau, vit, parce que l'Esprit prend la parole et l'écrit dans les cœurs de ceux qui la croient. C'est peut-être raison que il est écrit ici, écrit avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Mais bien-aimés, si cela pouvait avoir lieu avec nous tous, pouvait nous arriver tous, que chaque promesse de Dieu par l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, puisse être écrit dans ton cœur, dans mon cœur, que chaque promesse soit écrite, chaque promesse dans ton cœur, chaque promesse qui est écrite ici dans ce livre soit aussi écrite par le même Esprit de Dieu dans ton cœur et dans mon cœur, le même Esprit qui était sur les prophètes et se reposait sur les apôtres. Alors il faut que le même résultat, les mêmes choses, par la même parole se repasse, arrive, ait lieu, si c'est vraiment écrit dans notre cœur. Et c'est écrit ici dans l'évangile de Jean, le premier chapitre de notre Seigneur lui-même, que par lui, tout a appelé à l'existence, c'est-à-dire par la parole, et que sans lui, tout ce qui existe, rien n'a existé de tout ce qui existe, de tout ce qui a été appelé à l'existence. Dieu fait tout en accord avec sa parole. Et c'est peut-être raison qu'il est nécessaire, la nécessité a été donnée de prêcher, d'apporter sa parole à son peuple avant qu'il puisse se manifester, se faire connaître parmi les siens. Il faut que le message divin soit annoncé, soit apporté. Il doit être cru. Et ensuite, Dieu commencera à agir. Alors, la vie de Dieu apparaît. Pas des choses que nous fabriquons par le rythme, par la musique et un peu d'atmosphère, par les batteries et tout ça. Non, nous avons besoin d'un vent tumultueux qui vient du ciel. Il faut que ça vienne du trône de Dieu. Si, de nouveau, ça doit nous ramener au trône de Dieu dans le ciel. Et c'est ce qui est merveilleux. Pour aller là-bas, nous devons recevoir ce qui vient de là-bas. Notre Seigneur a dit, la parole qui est sortie de ma bouche ne reviendra pas à vide à moi, ne reviendra pas sans effet à moi, mais elle produira d'abord l'effet pour lequel Dieu l'a envoyée. Mais toujours de nouveau, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, il y a eu des difficultés et des problème parmi le peuple de Dieu. Alors, il y a eu un moment où tout s'est arrêté. Il y a eu des problèmes, des situations de détresse. Mais Dieu a toujours, n'est-ce pas, avec chaque problème et chaque difficulté, il a toujours trouvé une solution. Quoi qui aurait pu se passer. Quand nous continuons à lire, nous voyons dans les Écritures que le Seigneur a toujours accordé à son peuple la victoire de toutes ces épreuves. Si nous revenons un peu rapidement à ce que nous avons observé hier soir et peut-être ici dans Genèse et dans Exode et dans Chronique, peut-être d'abord dans Chronique, nous avons vu hier de quoi il s'agissait ici dans Chronique chapitre 13. Nous avons hier lu hier et je voudrais aujourd'hui lire un verset de 1 Chronique, le chapitre 12. 1 Chronique, chapitre 12, verset 13, verset 18. Amazaïl, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'esprit et dit : Nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix à toi. En allemand, nous restons attachés à toi, fils d'Isaïe, à toi et à tous ceux qui te secourent, qui restent attachés à toi, car ton Dieu t'a secouru. En allemand. Et David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. Qu'est-ce que c'était? Des hommes vinrent qui n'appartenaient même pas à cette tribu ou bien à ce peuple. Mais dans leur cœur, ils savaient que Dieu avait fait un choix en David et que c'était en eux d'avoir part à ce que Dieu fait dans leur temps et de ce que Dieu ferait. Et ils étaient revêtus de l'esprit et dirent : Nous sommes à toi, David, et avec toi. Oh, si nous qui venons des nations et qui n'appartenons pas originellement au peuple d'Israël, si nous pouvions dire au fils de David : Notre Seigneur, nous sommes à toi, ô Seigneur, nous sommes venus pour nous attacher à toi, toi fils de David. Paix, paix à toi. Nous savons que toutes ces images et ces versets prophétiques ou bien alors ces significations prophétiques dans l'Ancien Testament montrent la réalité dans le Nouveau Testament. Quelle consolation cela a dû être pour David, qui est passé par de telles profondeurs, des épreuves difficiles, qui a été rejeté et abandonné par son propre peuple, et rejeté et méprisé. Et voilà des hommes, des nations viennent, se tiennent de son côté et disent : Nous sommes à toi, nous restons attachés à toi. Ils ont reconnu que Dieu l'avait appelé, que Dieu l'avait béni et que Dieu l'avait utilisé. Nous sommes à toi, David. Oh, dis-le dans ton cœur et pense-le réellement, Seigneur, mon Sauveur, toi, fils de David, je suis à toi pour ce temps et pour toute éternité. Tu peux compter sur moi, me voici, agrée-moi, accueille-moi tel que je suis. Et ensuite, en nous, quelque chose va se passer. Ici, il est écrit, paix, paix à toi et paix à ceux qui s'attachent à toi. Car ton Dieu t'a secouru. 1 Chronique 12, verset 18, la deuxième partie. Oh, mes bien-aimés, notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Son secours englobe tout. Alors, notre secours ne viendra pas des montagnes auxquelles nous pouvons lever notre tête. Nous regardons au-delà des plus grandes montagnes, des plus hautes montagnes, à celui qui les a créées, à celui qui a créé le ciel et la terre. C'est à lui que nous regardons, c'est de lui que vient notre secours. Et alors il prouve sa majesté, sa puissance et sa toute-puissance. Nous sommes à toi, David. Et avec toi, nous restons attachés, fils d'Isaïe. Paix, paix à toi et paix à ceux qui te secourent, ou bien alors en allemand, qui reste attaché à toi, car ton Dieu t'a secouru. Je voudrais compter de ceux qui disent « Dieu, mon Dieu m'a secouru ». Et je vous dis que si Dieu nous secoue, alors nous sommes vraiment secourus. Et s'il nous bénit, alors nous sommes réellement bénis. Et s'il se révèle à nous, alors il s'est vraiment révélé à nous. Il s'est vraiment fait connaître à nous. Alors personne ne peut nous l'ôter. Ton Dieu te secourt. C'est pour cette raison que David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe, la fin du verset 18 de 1 Chroniques 12. Mais bien aimé, dans ce combat spirituel, nous pouvons seulement que être les uns, nous pouvons résister et gagner seulement les uns avec les autres, pas les uns contre les autres. L'ennemi est toujours en train de nous attaquer et de nous tenir tendre des pièges, mais nous pouvons sûrement seulement vaincre si nous regardons au Seigneur, si nous nous tenons attachés avec le Seigneur et attachés les uns avec les autres, pas de se diviser et de se discuter, mais de s'encourager les uns avec les autres et de rester ensemble. Si quelqu'un a à combattre et qu'il est au front, que nous puissions venir à lui et dire, écoute, tu peux compter avec nous, tu peux compter sur nous. Nous nous tenons dans la prière derrière toi, pour toi, que Dieu puisse t'accorder bénédiction et paix et salut. Celui à qui Dieu accorde le salut, la délivrance et la paix et la victoire, ce n'est pas pour lui seul, mais c'est pour tout son peuple. Et c'est de ça qu'il s'agit pour nous tous. Nous avons aussi touché encore cette pensée hier soir que du temps de Saül, pour l'arche de l'Alliance, personne s'en est occupé. Ils ne l'ont pas employé, ils ne se sont pas occupés de l'arche de l'Alliance. Elle n'avait aucune signification pour eux. Mais ensuite, vint un homme selon le cœur de Dieu. Et avec cet homme-là, le désir est revenu dans le cœur du peuple de Dieu de ramener l'arche de l'Alliance parmi le peuple de Dieu. Ici, dans Genèse, hier, nous l'avons lu. Et je voudrais aller dans Nombre, chapitre 16. Dans Nombre 16, la deuxième partie du verset 5. Nombre chapitre 16, c'est l'introduction à ce qui, donc, est mentionné et exposé à la fin du chapitre 16. Et ici, dans Nombre 16, la deuxième partie du verset 5. Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Là, c'est l'introduction à ce qui se passe dans le chapitre 17. Et saint en allemand est consacré et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Quelle parole merveilleuse. Alors que je disais cela tout à l'heure, je me suis écrit au bord de ce verset, « Seigneur, aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui, pas demain. » Ici, il est écrit « demain, l'Éternel fera connaître. » Vu de hier, le demain serait déjà aujourd'hui, un aujourd'hui pour nous. Et je me suis dit, « Seigneur, que cela soit déjà aujourd'hui, que tu fasses connaître. Si aujourd'hui nous entendons ta voix, aujourd'hui, si nous te croyons et nous te donnons foi et recevons ta parole comme dans notre cœur, comme une promesse divine, alors confirme aujourd'hui ta parole. Laisse-moi prendre cette liberté et cette parole demain, là, la remplacer par aujourd'hui. Aujourd'hui, la changer par aujourd'hui pour que, avec cela, nous ne violons pas les Écritures, mais nous faisons que nous représenter cela dans le présent, que Dieu n'est pas un Dieu du futur, mais du présent, et qu'aujourd'hui, nous sommes rassemblés devant sa face. Je lis simplement comme ça. Aujourd'hui, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui lui est consacré, qui est saint. Et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et il est écrit, celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver de lui. Dieu a des hommes sur terre qui peuvent s'approcher de lui. Sous le sang versé répandu de l'agneau, en tant que réconcilié avec Dieu, en tant que racheté, en tant que lié avec Dieu. Et en tant que de telles personnes, nous pouvons aujourd'hui être ici rassemblés. Aujourd'hui, que cela soit manifesté, qui lui appartient, qui lui est consacré, qui lui appartient. Et ici, il est écrit, celui qui l'a choisi, il le laisse s'approcher de lui. Alléluia! Loué soit Dieu. Paul écrit, vous savez que vous êtes les élus de Dieu. Vous appartenez aux élus. Et si nous croyons que Dieu ne nous a pas seulement appelés, mais qu'il nous a aussi élus, alors nous voulons croire que nous pouvons aussi nous approcher de lui. Est-ce que nous pouvons croire cela dans la foi, saisir cela dans la foi? Les choses vont ensemble. Nous devons nous réveiller. Nous devons suivre la parole de Dieu. L'élection avec le contact avec Dieu va ensemble. L'Esprit doit nous révéler cela. Ces paroles-là que nous lisons dans ce saint livre de Dieu, ce sont des paroles de Dieu. Et l'Esprit de Dieu veut les écrire dans le livre, dans le cœur des croyants, pour que après nous les ayons pas seulement dans notre tête ou bien alors dans nos bouches, mais qu'elles soient écrites, nous les portons écrites dans nos cœurs, et nous savons que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et si cette parole n'est pas seulement écrite ici ou bien imprimée ici, mais que par l'Esprit de Dieu dans ton cœur, elle a été écrite avec l'Esprit de Dieu, et que Dieu ensuite veille sur sa parole. Alors, est-ce que cette parole écrite dans ton cœur va pas s'accomplir dans ta vie? Alors, parce que Dieu veille sur elle pour l'accomplir, est-ce que sa parole est annulée? Est-ce que sa parole n'est pas la vérité? Est-ce que son alliance n'a plus de signification, de validité? Non. Dieu est fidèle et juste dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Aujourd'hui ou bien demain, quoi que nous voulions lire ici, demain ou bien aujourd'hui, l'Éternel fera connaître qui est à lui. Oh, qu'il puisse le faire déjà aujourd'hui, le faire connaître aujourd'hui, qui est à lui. Et tel que Frère Branham dans cette prédication disait, celui qui croit que la réconciliation et la rédemption a eu lieu par le sang de l'agneau, celui-là recevra la réponse de Dieu par le Saint-Esprit, pas ma réponse ou bien ta réponse, mais la réponse de Dieu sur l'œuvre de Dieu accomplie. Les hommes n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. Seulement, ce que Dieu fait, c'est ça qui est important. Demain, l'Éternel fera connaître, demain ou bien aujourd'hui, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Oh, que Dieu, et qui est celui qui le laisse s'approcher de lui. Que le Seigneur puisse nous accorder de nous approcher de lui. De nous approcher de Dieu, dans la foi, d'être dans sa présence. Et comme nous le verrons tout de suite, il faut que ce soit dans la bonne disposition du cœur. Donc, le prochain jour, il y a eu tout un nombre qui se sont approchés de Dieu, n'est-ce pas? Mais avec une mauvaise disposition dans leur cœur. Ils ont pris les brasiers, ils les ont apportés devant Dieu, mais contre des serviteurs de Dieu, contre un serviteur de Dieu, dans leur cœur. Et déjà, Dieu a jugé. A apporté un jugement. Là, Dieu ne tolère pas, ne peut pas permettre cela. Il n'y a aucune possibilité de venir dans la présence de Dieu en étant l'un contre l'autre. seulement ensemble et les uns pour les autres, pas dans une dans la division et puis prétendre qu'on est on est dans la présence de Dieu. Non, lisons cela encore ici, ce qui s'est passé le lendemain, et cette parole va aussi vous ébranler comme celle de hier. Dans Nombre, chapitre 16, nous lisons à partir du verset 19. Nombre 16, verset 19. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Imaginez-vous cela. Il a osé convoquer toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation contre Moïse et contre Aaron. C'est pas possible ainsi. Tout rassemblement en présence de Dieu contre un serviteur de Dieu échouera et sera jugé par Dieu si cela est fait contre son serviteur, contre ses serviteurs. Je relis encore cela pour que nous puissions ici comprendre le contexte. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. » Ils tombèrent sur leur visage, verset 22, et dirent et prièrent, « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. » L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à l'assemblée et dit, en allemand, ordonne à l'assemblée de se retirer de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. » Ça, c'était la réponse divine à la prière de Moïse. D'un côté, ils ont osé, sans un ordre de Dieu, sans un mandat, convoquer toute l'assemblée contre Moïse, sans une commission divine, et contre Aaron. Mais ces deux-là se sont déjà ici jetés sur leur face et ont prié et ont dit, « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair. » Ici, nous voyons déjà la bonne disposition. Pas de discussion, pas de débat, mais de prier devant la face de Dieu pour la situation. L'Église avait été emportée dans cette confusion. Ils se sont rassemblés, étant convoqués, mais contre Moïse et contre Aaron. À quoi sert une convocation si elle est contre quelqu'un, elle est dirigée contre quelqu'un? Est-ce que Dieu doit se révéler parmi une telle assemblée? Est-ce qu'il doit la exaucer les prières? Non, ce n'est pas possible. Si nous nous rassemblons devant la face de Dieu, alors c'est pour Dieu et c'est pour les uns pour les autres. C'est avec Dieu et les uns avec les autres. C'est ensemble, c'est seulement comme ça que Dieu pourra être parmi nous et se faire connaître parmi nous. Ô Dieu, toi, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché. Un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. Non, Dieu ne peut pas s'irriter contre. Dieu ne peut pas s'irriter. Dieu accorde la grâce avant de juger. Et il s'est révélé ensuite à l'assemblée parce qu'il les avait appelés à sortir. Il les avait. Et il s'était révélé à eux. Il avait fait beaucoup pour eux. Mais cet ordre avait été fait et il n'était pas sans signification. Ici, il est écrit au verset 23. L'Éternel ordonna à Moïse et dit. Ordonne. En allemand, c'est toujours. C'est pas seulement parle, mais dit, mais ordonne à l'assemblée et dit. Retirez-vous de toutes pas loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abraham. C'est pas l'assemblée qui avait la faute. C'était ceux qui voulaient être quelque chose, qui voulaient avoir de la valeur, qui étaient contre Moïse, qui ont dit, mais n'avons pas nous aussi un ministère, n'avons pas nous aussi le droit de faire ce que tu fais. Oui, si Dieu vous l'ordonne, alors, mais si Dieu ne vous l'a pas dit, si Dieu ne vous a pas mandaté, alors qu'est-ce que vous voulez faire dans le royaume de Dieu? Quand est-ce que nous allons comprendre que dans le royaume de Dieu, le désordre, la confusion doit cesser et que l'ordre divin doit retrouver sa place, et cela très rapidement avant que Dieu vraiment puisse se révéler, se manifester dans toute sa puissance et sa gloire. Ici, le Seigneur a ordonné à Moïse et dit, ordonne à l'Assemblée. Aujourd'hui, quelqu'un dirait, mais qui te donne le droit d'ordonner quelque chose à l'Église, à l'Assemblée? Mais ici, c'est l'Éternel qui a parlé à Moïse. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Moïse n'agissait pas de lui-même. Il faisait ce que le Seigneur lui ordonnait de faire. Parle à l'Assemblée, ordonne à l'Assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Arimam. Qu'est-ce qui s'était passé? L'influence qui était sortie de ces trois personnes-là était nuisible pour toute l'Assemblée, et Dieu ne pouvait pas permettre que son Assemblée, qu'il a fait sortir avec grande puissance, soit sous une influence, s'écroule sous ces influences humaines-là. Et alors, il a ordonné par Moïse à toute l'Assemblée de s'éloigner, de se retirer, de ne rien avoir à faire, de ne toucher à rien de ce qui appartient à ces gens et vient de ces gens. Et au verset 26, il est dit, il parla à l'Assemblée, en allemand, il ordonna à l'Assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces impies, en allemand, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Une parole très dure, une parole très sérieuse. Mais ce n'est pas moi qui l'ai prononcé et ce n'est pas Moïse non plus qui l'a dite. C'est le Seigneur, elle est sortie de la bouche du Seigneur. C'est le Seigneur qui l'a ordonné. Il ne peut pas voir comment est-ce que tout est déchiré parmi son peuple et des hommes influencent son peuple et l'égarent. Ici, il a ordonné, retirez-vous. Oui. Éloignez-vous des tentes de ces méchants. Oui. Oui. Éloignez-vous. Oui. En allemand, éloignez-vous, oui, des tentes de ces méchants hommes. Étaient-ils des hommes méchants, des impies? Non. À nos yeux, non. Ils appartenaient au peuple de Dieu. Ils étaient princes, ils étaient anciens. Ils avaient droit de parler, ils avaient des droits, ils avaient des charges. Ils avaient aussi des obligations. Chacun qui a une charge, il a aussi une obligation. Et l'obligation de Dieu consiste à ce que nous devons rester dans le cadre de ce que Dieu nous a dit dans le cadre de sa parole, et ce qui n'est pas notre ministère. Là, la parole de Dieu nous dit que nous devons faire attention de ne pas faire des choses pour lesquelles nous ne sommes pas déterminés par Dieu. Et il dit ici, retirez-vous de ces méchants, de ces impies. Ce n'étaient pas des méchants, des impies. Ils ont pris des brasières entre les mains avec du parfum. Ils sont allés à l'hôtel. Ils ont convoqué le peuple à l'entrée de la nation. Ils ne les ont pas convoqués dans le monde, dans les choses du monde, mais à l'entrée de la tente d'assignation. Oh, avec des brasières et du feu. Je vais vous dire, la méchanceté et les impies qui sont dans le monde ne sont pas trop dangereux pour l'Église que les méchants et les impies qui sont dans l'Église, dans l'Assemblée, dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la méchanceté, l'impiété dangereuse, pas dans le monde entier, mais à l'intérieur de l'Assemblée, dans le royaume de Dieu. Tous les impies et les méchants qui font des choses pour lesquelles ils ne sont pas déterminés de Dieu. Et il est dit, toute écriture est inspirée par Dieu et sert à notre instruction et à notre conviction et tout ce qui appartient à cela pour que l'homme soit parfait pour toute bonne œuvre. Et ne touchez à rien de tout ce qui appartient à ces gens. Oh, que cela puisse inonder nos cœurs dans ces jours. Nous avons la sainte et précieuse parole de Dieu que nous avons reçue dans sa pureté et dans sa signification authentique. Et je le dis ici de manière claire. Et tel que dans la Sainte Écriture, c'est écrit 7 fois. La parole de Dieu a été prouvée 7 fois. Personne n'a besoin encore de l'éprouver ou bien de la cibler. La parole de Dieu est claire comme du cristal. Tout ce qui n'est pas clair se trouve dans la tête et dans le cœur des hommes. Mais toujours, certains sont utilisés pour faire ceci et cela. Tel que Dieu utilise dans l'Église des hommes, et tel qu'il est écrit, Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des bergers, des docteurs et des évangélistes. Pour quelle raison? Pour que l'Église soit édifiée pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'Église, l'œuvre de Dieu, Éphésiens 4, versets 11 et 12. Alors, Paul écrit que beaucoup se sont infiltrés parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, ou bien des faux enseignements, ou bien alors nous introduisons sournoisement, ou bien alors nous sommes établis. Et si nous sommes établis, alors Dieu le sait et le peuple de Dieu aussi le sait. Alors on n'a pas besoin de s'introduire sournoisement, ou bien de s'infiltrer. On peut en public dire ce que Dieu a dit et annoncer les oracles de Dieu. Et cela est encore valable jusqu'à dans notre temps. Oh, comme les leçons sont grandes ici, de la parole de Dieu. Combien de clarté nous viennent des Saintes Écritures. Alléluia. À notre Dieu et Seigneur pour sa sainte et précieuse parole. À notre Dieu est un grand Dieu, un Dieu glorieux, merveilleux, un Dieu tout-puissant. Et comme Moïse et Aaron l'ont fait, ils sont tombés dans la brèche. Mais Dieu a prononcé le jugement et l'assemblée a été secourue de nouveau. Secourue. C'est comme ça que nous aussi nous voulons faire confiance au Seigneur en sachant qu'il se fera connaître parmi nous, il se révélera parmi nous. Encore un verset de Nombre, chapitre 17, verset 4 en français. Chapitre 17, verset 4 en français. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. En allemand, où j'ai l'habitude de me rencontrer avec vous. L'habitude. Moïse a donc apporté la chose devant le Seigneur par les choses devant le Seigneur par lesquelles le choix de Dieu devait être pris. Devait être pris. Nous aussi, nous ne pouvons que faire la même chose. Nous ne pouvons pas prendre de décision de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas porter un jugement. Nous devons nous-mêmes nous soumettre au jugement de Dieu. Il n'y a qu'un seul législateur et juge, mais il y a une chose que Dieu puisse nous accorder. Le discernement clair où des hommes sont convoqués, rassemblés à l'entrée de la tente d'assignation pour écouter la parole de Dieu, liés avec Dieu et liés les uns avec les autres, qui peuvent dire, comme ces hommes disaient autrefois à David, nous sommes à toi, David, et nous restons attachés avec toi, fils d'Ésaïe, paix à toi et paix à ceux qui s'attachent à toi, car l'Éternel, ton Dieu, te secourt. Et David les a accueillis et a fait d'eux les chefs des troupes. Donc, des hommes qui se rassemblent autour des hommes de Dieu et qui ont été établis par Dieu pour porter sa parole. C'est ce dont nous avons besoin dans ce temps, plus que jamais auparavant. Le grand combat est en cours, mais la parole que nous avons entendue, les promesses que nous avons reçues, elles sont écrites. Que maintenant le temps soit arrivé dans lequel toutes ces paroles de Dieu-là, ce n'est plus avec notre compréhension humaine que nous les écoutons, mais dans la prière, dans la foi que nous les écoutons, avec un amen de tout notre cœur, que nous puissions tous suivre l'Esprit et que l'Esprit de Dieu dans notre cœur puisse écrire sans en être empêché. Phrase par phrase, promesse par promesse, qu'il puisse écrire tout ce qui est écrit dans la Bible, dans notre cœur. Et je le répète encore une fois, c'est l'Esprit de Dieu peut écrire sous l'écoute, pendant que la parole de Dieu nous est prêchée et qu'elle est vivifiée par l'Esprit de Dieu. Est-ce que si il écrit sa parole, aussi vrai qu'il a pu l'écrire dans ton cœur, est-ce qu'il ne veillera pas sur toi à cause de sa parole qui est écrite dans ton cœur pour l'accomplir? Et c'est pas seulement écrit ici, c'est écrit aussi ici, dans ton cœur. La parole n'est pas, les promesses ne sont pas seulement dans la Bible, mais elles sont écrites sur, dans ton cœur. Et Dieu veille sur toi et sur moi à cause de sa parole qui est en toi et en moi, pour en toi et en moi confirmer sa parole par toi. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de cette expérience, de cette relation personnelle, relation, contact personnel avec Dieu. Qui étaient ces hommes avec qui Dieu avait fait l'histoire autrefois? Qui étaient-ils? Ont-ils, dans leur temps seulement, écouté les paroles de la promesse avec leurs oreilles? Ou bien alors, ils l'ont porté dans leur cœur? Et alors, ils l'ont vécu dans leur réalité, dans leur accomplissement. Nous pourrons prendre beaucoup d'exemples dans la Bible, aussi d'Abraham jusqu'à Marie et tous ceux qui ont reçu les promesses de Dieu, qui les ont portées dans leur cœur, dans leur temps, et qui ont vu leur accomplissement, l'œuvre de Dieu, le jour où le Seigneur a accompli dans leur vie chaque parole qu'il leur a prononcée, qu'il leur a révélée. Autrefois, ils n'avaient pas encore de Bible. Ils ne pouvaient pas lire et écrire, mais ils pouvaient écouter, ils pouvaient croire, ils pouvaient être patients et être en accord avec Dieu, marcher avec lui. Dans le même pas, alors cela a eu lieu. Mais bien aimé, nous pouvons aujourd'hui lire, nous pouvons écouter, nous pouvons même parler mieux. Mais où sont ces hommes-là qui écoutent la parole et qui sont calmes, dans la patience, qui ont une communion personnelle, un contact, une relation avec Dieu et les uns avec les autres, qui acceptent dans la foi, qui reçoivent et par la parole et l'esprit sont en relation avec Dieu et l'esprit peut écrire sa parole dans leur cœur jusqu'à que chaque parole qui est écrite dans la Bible pour ce temps, est aussi écrite dans ton cœur et dans mon cœur. Et alors Dieu, dans son entièreté, l'accomplira. Mais pas seulement si c'est écrit dans la Bible. Il faut que les promesses soient écrites dans ton cœur, et cela écrite avec l'Esprit de Dieu, sous l'écoute. Comme Paul pouvait dire, c'est évident que vous êtes une lettre de Christ, écrite avec l'Esprit de Dieu. Que Dieu puisse nous accorder que ces derniers jours, dans ces derniers jours, une église puisse apparaître dans laquelle la parole de Dieu n'est pas seulement écrite dans la Bible. Cette Bible, toutes les dénominations l'ont et toutes les églises l'ont. Mais l'église du Seigneur, elle a la parole dans son cœur, écrite avec le Saint-Esprit, qui lui-même a inspiré cette parole et l'a donnée. C'est le message de Dieu. Oh, qu'il ne passe pas à côté de vous. C'est la parole du Seigneur. Elle n'est pas pour adresser à nos têtes, mais à nos cœurs. Tel que c'est écrit depuis autrefois, que Dieu pourrait faire de ce jour un jour où tout change, où nous sommes rapprochés de lui, pour qu'il puisse se révéler, se manifester. Je m'excuse. Mais mon cœur est saisi. Le retour du Seigneur est si proche. Nous avons souvent discuter sur sa parole, parler de cela et nous discuter sur les Écritures, sur où est-ce qu'elle est écrite par l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Et que Dieu puisse veiller sur nous à cause de sa parole pour l'accomplissement en son temps, pour l'accomplir. C'est ça qu'il s'agit maintenant, dans ce temps. Et nous devons être ensemble. Que le Seigneur nous aide par sa grâce et avec nous, tout son peuple dans le monde entier, sur toute la terre. Et lui seul peut prendre ses décisions et dire, voici, ça c'est mon peuple. Ils ont accepté ma parole. Ils étaient calmes, ils étaient patients, ils ont cru. Ils étaient rassemblés à l'entrée de la tente d'assignation, convoqués par un homme de Dieu pour écouter la parole de Dieu, pas les uns contre les autres. Et l'Esprit, là, c'est là que l'Esprit peut écrire la parole dans le cœur. Et nous pourrons porter ce qui est écrit dans la Bible parce que l'Esprit de Dieu l'a écrit dans nos cœurs. Et Dieu, là, pourra se révéler. Sa gloire pourra se révéler. Que Dieu puisse le faire. C'est sérieux ce qui est écrit ici. Cette parole, c'est sérieux. Si la parole de Dieu est seulement écrite dans la Bible et que l'Esprit de Dieu n'a pas pu l'écrire dans nos cœurs, alors c'est en vain que nous l'écoutons. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous l'accorde à tous par sa grâce. Amen. Levons-nous. Oh, nous te remercions pour ta grâce, Seigneur. Nous louons, nous te louons. Oh Dieu, nous te louons. Car ta présence est proche de nous. Tes œuvres, nous les annonçons. Tes œuvres t'annoncent, te glorifient. Tes œuvres. Comment est-ce que nous ne devrions pas recevoir, écouter, prêter l'oreille à ce que tu nous révèles? Seigneur, le temps viendra où tu vas prononcer un jugement juste, où tout sera révélé, tout ce qui était dans nos cœurs et dans nos pensées, tout cela sera révélé. Alors que tu avais parlé, les pensées que nous avons eues sous le coup de ta parole, tout cela sera révélé. Que nos pensées et nos cœurs te soient tournés, à toi dans cette heure, ce matin, ô Seigneur. Car, de manière claire, tu as adressé ta parole à nous tous. Ô Seigneur, l'heure arrive, où tu jugeras. Aujourd'hui, c'est encore le temps de la grâce. Aujourd'hui, nous pouvons venir à toi parce que tu parles avec nous, avec plein de grâce, avec amour, des paroles d'amour. Tu nous touches le cœur par ta parole et tu veux que nous soyons secourus, que nous puissions venir à toi tel que nous sommes. Nous ne pouvons pas nous secourir nous-mêmes, mais tu veux nous secourir, nous aider. Si nous nous approchons de toi de la bonne manière et nous nous prosternons, et si nous laissons tout jugement qui serait en nous pour nous mettre à ta disposition et dire, Seigneur, nous voici. Fais de nous quelque chose qui te glorifie, quelque chose. Fais en nous ce que tu veux, ce qui est agréable, pas comme nous voulons, pas ce que nous voulons, mais comme toi tu le veux, Seigneur. Crée-le en moi, produis-le en nous tous, Seigneur, ce qui t'est agréable ce matin. Seigneur, c'est écrit d'une manière si merveilleuse. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons, car ton nom est proche de nous, ton salut est proche de nous. Ce matin, tes œuvres te glorifient, t'annoncent, te font connaître, adoration soit à toi. Alléluia. Et tu parles. Quand le jour viendra, je jugerai. Oui, nous le voyons dans ta parole, que le temps était venu en ce jour-là autrefois où tu as prononcé un jugement correct, droit, juste avec ceux qui se sont rebellés contre toi et contre tes oins et contre tes serviteurs et contre tes intentions parmi ton peuple, contre ton plan. Seigneur, tu n'as pas changé. Nous croyons tes paroles, que le temps arrivera où tu jugeras tous ceux qui sont contre tes oins. Ô Seigneur, mais ton peuple qui il veut écouter, il veut te croire et il veut s'ouvrir à toi ce matin. Nous te demandons, fais-nous grâce, comme déjà prié, Seigneur, comme déjà secours-nous, Seigneur, accorde ta grâce. Pour que toutes ces paroles-là soient ici écrites dans nos cœurs avec le Saint-Esprit, que personne puisse les ôter, Seigneur, mais qu'elles sont gravées pour toujours par le Saint-Esprit et qu'elles restent en nous, demeurent en nous, jusqu'à qu'elles trouvent leur accomplissement. Loué sois-tu à ton merveilleux nom. Amen.